France Inter.
Maman disait toujours que mourir faisait partie de la vie. J'aurais tant aimé que non.
C'est la plus grande la palissade du monde. La mort fait partie de nous. Car oui, au grand jeu de la vie, 100% des participants vont mourir. Pourquoi donc avons-nous tant de pudeur à en parler ? On euphémise, on adoucit les mots, décéder, s'éteindre, disparaître. Des artifices pour rendre la mort moins brutale, sans doute. À l'heure où les cimetières se préparent pour la Toussaint, suivie du jour des défunts, Interception se penche sur la notion de deuil. Que se passe-t-il en nous lorsque nous perdons, une fois adultes, nos grands-parents, nos parents, notre conjoint, un enfant, un ami ?
Donc c'est vraiment la foudre qui nous tombe dessus. On comprend pas. Et on a envie de secouer tout le monde et dire mais t'as pas compris, en fait, que la Terre, elle a arrêté de tourner.
50 000 personnes décèdent chaque mois dans notre pays, 600 000 par an. Nous sommes donc tous des endeuillés, hier, aujourd'hui ou demain. Et alors que le sol se dérobe sous nos pieds, on nous demande de faire notre deuil.
Ça fait plus de 30 ans que j'accompagne les personnes en deuil, et ça fait plus de 30 ans que les gens, après un certain temps d'accompagnement, me disent « Ben non, on peut continuer ». On peut même avoir un autre enfant si on a perdu un bébé.
Alors, puisque nous allons tous y passer, inutile de prendre un ton funèbre ou de faire une tête d'enterrement, nous vous proposons des rencontres avec des endeuillés à diverses étapes de cette épreuve. Il y a bien sûr de la tristesse, mais aussi des sourires et des rires, un grand souffle de vie. Au-delà du deuil, c'est un reportage d'Olivia Muller.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
La mort ? Tu veux qu'on parle de la mort ? Ah, ça c'est bien. La mort, ça nous stresse quand même.
C'est une voyage entre la séparation de l'âme et de corps.
C'est un grand voyage.
Grand voyage, mais il n'y a pas de retour. Tellement c'est beau, du coup il n'y a pas de retour. Ça fait partie de la vie.
La vie, c'est avec la mort.
La mort, quand il vient, il vient. Du coup, il faut être toujours prêt pour partir. Parce que dans la vie, il faut faire ce que tu as à faire.
Qu'est-ce que vous avez à faire, vous ?
Nous, beaucoup de choses. De s'occuper bien de ma famille d'abord, et surtout ma mère aussi.
Ah, la mère, c'est un diamant. Parce que parfois, tu vives des choses très compliquées. La première personne qui va venir chez toi, c'est ta mère.
Une fois que tu as perdu ta maman, dans la vie, tu es seul en fait. Il faut se lever debout et face à toi-même. Il n'y aura personne d'autre qui va s'occuper de toi. Moi, je m'appelle Ndiaga Thiam, j'ai 25 ans.
Moi, je m'appelle Ahmed, j'ai 32 ans.
Moi, c'est Ousseyni Sek, j'ai 25 ans.
Vous faites quoi ?
Restauration.
Comédie cuisine, restauration.
Et je vous ai croisé sur le canal de la Villette.
Dominique, tu sais, la vie ici sans toi, c'est plus vraiment comme un. Elle tombe plus vraiment pareil, tout ça d'un peu tragique.
Merci. Bonjour. Je suis à Paris dans le 12e arrondissement et je m'apprête à retrouver Léo Bourdin. Il est journaliste culinaire au Monde et pour différents médias. Il a 38 ans et il a publié il y a quelques mois un article dans lequel il explique comment la cuisine, comment le fait de cuisiner l'a aidé à digérer le deuil de sa mère. Je traverse une grande résidence, un immeuble en briques rouges. C'est bon ? Ouais. Ok, merci. Bonjour.
C'est la chambre de mon fils, c'est ma chambre, enfin notre chambre.
Tout est bien rangé.
Ouais, j'ai fait un peu de ménage parce que c'est un peu la tornade le matin.
Vous écrivez chez vous ? Vous travaillez chez vous ?
Ouais, à la maison.
On s'installe dans votre cuisine, vous me disiez, c'est la pièce la plus précieuse ?
Ouais.
Je t'écris, il y a beaucoup de nourriture dans des bocaux, des livres de cuisine, pas mal.
J'ai un peu une passion épicerie. C'est un peu compulsif, je ramène des trucs, donc t'as
des citrons séchés iraniens, des petits piments en pickles, puis voilà, des petites sauces tomates. Il y a un truc assez formidable avec, avec la question culinaire, c'est que c'est quelque chose qui est facile à appréhender, quoi. C'est quelque chose que qui est commun à tout le monde. Il n'y a pas de snobisme en nourriture, quoi. C'est-à-dire qu'on peut parler de nourriture avec n'importe qui. C'est parler aussi de sentiments, c'est parler aussi d'histoire humaine énormément. Je m'appelle Léo Bourdin, j'ai 38 ans, j'habite à Paris 12e, je suis journaliste culinaire dans la vie. Moi j'ai perdu mon père quand j'avais 27 ans. Il a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas, qui est vraiment un cancer scélérat. Il a été malade pendant 3 mois avant de décéder chez lui. Il y a eu quand même un avant et un après le décès de mon père. C'est-à-dire, évidemment, il y a cette idée un petit peu bateau de se dire, bon, on prend un peu plus conscience que la vie est précieuse et que ça peut s'arrêter, tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Mais j'ai une prise de conscience un peu plus globale de, là j'ai 27 ans, j'ai pas une vocation dans ma vie, j'ai pas un travail, je fais des petits boulots, je suis un peu entre deux choses. Et je me dis, c'est l'occasion aussi de reconstruire, entre guillemets. La disparition d'un proche, c'est un événement qui est tellement puissant dans une vie. Ça m'a fait peut-être, ouais, je suis peut-être vraiment devenu adulte à ce moment-là. Tomber amoureux, et c'est quelque chose qui m'est arrivé... juste après la mort de mon père. En fait, on va tous, à un moment donné, devoir enterrer ses parents, si on meurt pas avant eux. Et en fait, je me souviens me dire, bon, bah ça c'est fait, quoi. C'est un peu genre, comme si j'avais eu le bac à 16 ans, quoi. Moi, j'ai plus ça à faire, quoi. Et maintenant, j'ai perdu mes deux parents, à 38 ans, et je le vois de manière un petit peu cynique, hein, mais perdre ses parents jeunes, ça veut dire qu'on n'aura pas à s'occuper de vieux.
Parce qu'ensuite, 10 ans plus tard, donc à 37 ans, vous apprenez que votre maman est malade à son tour.
Voilà, et 10 ans après la mort de mon père, ma mère est tombée malade d'un cancer aussi. Voilà, l'ironie du sort, c'est que mes parents, ils avaient exactement 10 ans d'écart et ils sont morts à exactement 10 ans d'écart au même âge, quoi. Et donc non, ma mère, dans les jours qui suivent, moi je pense beaucoup à ma mère, évidemment, déjà parce que je retourne chez elle. Et en fait j'ai ce truc de me dire, elle est partie, et là il reste encore un peu d'elle sur place, sur terre, quoi. Je me souviens franchir la porte, donc je sens un petit peu cette odeur de chez ma mère, en fait, quoi. Et ça me réconforte vachement. Il y a un lit défait, donc il y a ce truc du mouvement. Je me dis, voilà, c'est elle qui l'a défait. Je me suis tout de suite dit, en fait, c'est un petit musée, là, en fait. Cet endroit-là, c'est peut-être la dernière fois. Tu vas pouvoir regarder comment elle a mis sa petite bouilloire de telle manière, ou je sais pas, des petits détails futiles. D'un coup, j'étais en mode scanner, quoi. Ma mère, elle est encore là, en fait. Tout est encore hyper présent et vivace, et... Donc je ressens pas encore de vide immense à ce moment-là. En revanche, quand je rentre chez moi, une fois que ma mère a été incinérée, qu'il y a une cérémonie, que toute la partie hyper émotionnelle de la chose a été un petit peu vécue, et que je me retrouve dans mon quotidien, là oui, le vide intense, il se fait, parce que je pense à un truc, j'ai envie de le dire à ma mère, quoi. J'ai espèce de réflexe de... J'avais pris l'habitude, quand je savais que je devais marcher ou que j'avais une longue distance à faire, de passer un coup de fil à ma mère. Donc ça, c'est hard. Franchement, c'est là où je ressens vraiment un vide. Et je suis vraiment obligé de me résigner, quoi. En fait, j'ai un truc d'enfant, quoi. C'est à chaque fois que j'ai un accomplissement X ou Y dans ma vie, eh ben, j'ai envie de leur dire, quoi. Et maintenant, en fait, je leur dis dans ma tête, quoi. J'ai une petite étagère dans mon salon où j'ai mis des photos de... J'ai mis une photo de mon père et une photo de ma mère. Bien séparées, avec deux bougies bien séparées. Yeah. grammes de polenta pour 380 grammes d'eau. On se passe aux tomates et après on se fait le petit fromage aux herbes. Les mois qui ont suivi la dispersion de ma mère, ouais, j'ai commencé à ressentir en fait, comme quand on est un peu stressé, quelque chose qui nous angoisse ou un... Ben, j'avais ce petit truc au creux du ventre qui faisait que ça me coupait l'appétit complètement. Alors, ça ne veut pas dire que je ne me nourrissais pas, mais ça veut dire que j'avais moins de curiosité que d'habitude, moins de... Je pense que c'est un peu la tristesse qui prend le dessus, quoi. Mais c'est revenu, heureusement. En fait, c'est revenu un jour où je pensais très fort à ma mère et j'ai eu envie de faire un repas comme elle me faisait. Son petit frichti, quoi. Un peu pour la faire revivre, quoi. Un peu pour retrouver ce petit moment où j'allais manger chez elle. Et puis, quand elle préparait la polenta, la faire frire. Et en fait, je me suis vachement régalé à cuisiner. Je me suis senti bien. En tout cas, j'étais hyper connecté à elle, quoi. Et voilà. On va laisser mijoter un peu à fond.
Vous écrivez « Cuisiner m'a aidé à digérer le deuil ».
Ouais, bah c'est une petite formule. C'est une petite formule qui a son sens, ouais. On se réveille pas un matin en disant « j'ai fait le deuil », quoi. Même aujourd'hui, je peux pas... Enfin, ça fait partie des jalons un peu de ma vie, quoi. On fait le deuil... Enfin, on est toute sa vie en deuil. Après, je me réveille plus le matin avec une boule au ventre. Je mange bien, Je suis en paix avec mon deuil, en fait, c'est ça. Je suis en paix avec mon deuil.
La sauce tomate mijote, yes. Le fromage de chèvre est prêt.
Presque, il faut le...
Presque prêt, il faut le battre.
Ouais. Un peu de sel. Un peu de poivre. Huile d'olive. Les pastas, hein.
Il y a une montagne d'herbes posée sur le chèvre.
On discutait et je me suis un peu lâché, je vais en enlever un peu.
Je fais le murmure dans la mort. J'écoute le murmure de l'au-delà, de l'au-delà. J'écoute le murmure.
Je pense souvent à la mort parce que ça me terrifie. Vraiment, ça me terrifie. Il y a quelques années, je pleurais, vraiment je pleurais, c'était des crises quoi, genre j'étais dans mon lit et vraiment comme si j'étais paralysée quoi.
Là, l'émission c'est vraiment sur le deuil à l'âge adulte. Est-ce que vous avez le sentiment que le deuil en reste un sujet tabou dans la société, en tout cas européenne, occidentale, française?
Ce que je trouve dommage et frustrant, c'est la manière dont on a de se cacher. Moi je pense que c'est hyper idiot parce que c'est ce moment où on a le droit de crier, on a le droit de faire n'importe quoi parce que parce qu'on est en deuil et qu'on a envie de pleurer pendant des mois. Il faut juste se vider pour ensuite aller mieux et de se rendre compte qu'on est vivant.
Diana, 19 ans.
Gwen, 18 ans. On est ici au canal de Saint-Denis et je suis en BTS audiovisuel, option image.
Comme le pointent ces étudiantes rencontrées par Olivia Muller, les rites funéraires ne sont plus aussi collectifs que par le passé. Les veillées au domicile du défunt, quand tout un quartier, tout un village vêtu de noir venait rendre hommage, sont devenues rares. Pour briser cette solitude, quelques initiatives émergent. Les Cafés Mortels, nés en Suisse, rassemblent autour d'un verre des personnes endeuillées. Il existe même des orphelinades ou des veuveries. Des associations s'emparent du sujet et de sa dimension sociale. Avant de nous emmener découvrir l'une d'entre elles, Olivia Muller continue à promener son micro au milieu des vivants qui parlent de la mort.
Interception sur France Inter.
Même quand tu n'as rien à dire,
oui, moi je dis des conneries. Moi je parle pour rien dire, comme tu dis.
Arlette, à côté de moi.
Je vais te couler. Marguerite, 78 ans.
Moi, 87, Arlette.
Je vous rencontre Canal de l'Ourcq. Vous êtes deux dames assises sur des petites chaises de camping, l'une en face de l'autre. Vous vous retrouvez souvent ici?
Tous les jours.
Tous les jours. Et vous avez des choses à vous dire comme ça, tous les jours?
On parle de mode, on parle de cuisine, on parle de... On regarde les gens passer, on critique. On nous a dit qu'on était radio vipère. Moi, je suis veuve, elle est séparée.
Vous êtes veuve depuis longtemps ?
4 ans. Je me dis, bon, ben, aujourd'hui, tu te lèves, t'es en forme, profite de ta journée, on verra demain. On apprécie chaque moment. Moi, j'ai eu un mari très malade pendant 2 ans, que j'ai beaucoup soigné, je m'en suis beaucoup occupée. J'oserais pas le dire, mais enfin, quand il est décédé, ça a été presque un soulagement, aussi bien pour lui que pour moi. Alors donc, je profite un maximum.
He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego.
Bonjour.
Bonjour. Je suis Valérie, je suis bénévole à l'association.
Je suis Emmanuel.
Allez, être en retard.
À Paris, il existe une association, l'association Empreinte, située dans le 10e arrondissement, qui propose un soutien pour celles et ceux qui auraient perdu un proche.
On va peut-être faire un tour de présentation de chacun.
Alice, c'est mon 5e atelier peut-être. Et... J'ai perdu mon mari il y a 1 an et demi.
Bonsoir Claire. Je viens à la suite du décès d'un de mes fils. J'ai 4 enfants et mon 3e est décédé.
Oui, bonsoir, moi c'est Laurent, j'ai 63 ans. Mon épouse est décédée il y a un peu plus d'un an, en juillet 2023.
Moi, c'est Gladys. Mon mari est décédé en fait en 2021. Et là, je ressens vraiment le besoin de revenir. J'ai cru que c'était bon, mais là...
Ouais, on sent que le deuil aussi, c'est par phase.
C'est terrible.
C'est cyclique.
Ouais. Oui.
On va prolonger ce petit temps par une météo sous la forme suivante, c'est-à-dire en allant visiter 3 espaces en soi. La tête... le corps et le cœur. Et donc la proposition, c'est aujourd'hui, ma tête est comme... On continue. Mon corps est comme... on trouve une image. Et mon cœur est comme... et là aussi, on cherche l'image qui exprime le mieux l'état dans lequel vous vous sentez ce soir.
Consultation individuelle, réunion de groupe, l'accompagnement se fait à tout âge et à toute étape du processus de deuil. Ce soir-là, et comme chaque mois, un petit groupe de personnes endeuillées se retrouve dans l'atelier d'écriture mensuel mené par Valérie, bénévole depuis 20 ans, et Emmanuel Jay, art-thérapeute, qui qualifie l'écriture d'allier, d'oreiller et de sac de frappe.
Bon pour tout le monde. Et du coup, qui est-ce qui aimerait partager en premier son texte ?
Alors, aujourd'hui... mon corps est comme une vieille machine qui n'en finit pas de s'user.
Mon cœur s'allège, se réjouit à l'idée d'évoquer mon Raphaël, car il est toujours avec moi et tout près de mon cœur.
Aujourd'hui, ma tête est comme un ballon de football, lourde, dur au toucher, âpre, impossible de réfléchir.
Les images, mais cette fois-ci avec des photographies. Comme ça, après, vous serez invité à vous lever et à venir choisir une image qui vous parle, qui vous inspire, qui résonne en tout cas avec votre deuil, votre ressenti d'aujourd'hui.
Ouais. Est-ce que vous voulez bien me décrire ce que vous voyez, s'il vous plaît ?
Là, je vois... quelqu'un qui marche vers la lumière, probablement.
Alors, je vous propose d'écrire un texte à partir de cette image. Et qui veut démarrer ?
Gladys.
Naturellement, j'ai pris l'image de cet homme marchant dans la campagne, dans les champs. Rappelle-toi, je t'ai demandé plusieurs fois de m'accompagner dans des endroits semblables où l'on ne voyait pas de maison ou d'immeuble. On s'amusait à regarder les vaches. Il y en avait toujours une qui allait loin du groupe. On marchait main dans la main et on riait. Je suis seule sur la route maintenant. Je voudrais que tu sois à côté de moi. Je sais que tu es à côté de moi. Tu souris et ça fait du bien.
Merci. Alors, voilà ma photo. Donc, tout le monde pense que c'est une simple photo d'un paysage qui n'a rien d'extraordinaire, rien de spécialement beau. Mais c'est là, sur ce paysage, que je chemine, tantôt avec toi, Malaresos. Et Dieu sait qu'on en a fait du chemin ensemble. Tantôt avec nos enfants, tantôt avec ma nouvelle compagne, tantôt seule. Cela m'a fait du bien de marcher seule. Et je ne serais pas le même aujourd'hui sans ce cheminement solitaire. Et combien j'aimerais que nous puissions tous ensemble marcher en nous donnant la main les uns les autres, comme quand tu étais là, Malaresos. Ton départ nous avait rapprochés, les enfants et moi. La solidarité était belle. Aujourd'hui, nous semblons nous éloigner les uns des autres.
When you search in vain to find some law-abiding citizen, just remember that death is not the end.
Je suis très frappé comme on s'est tous les quatre rapprochés de notre défunt à travers ces photos, en fait. Quand c'est une relation qui de temps en temps redevient très très forte, quoi.
Et moi j'ai l'impression que le réconfort vient aussi du fait que, une fois la porte fermée, comme si on baissait les armes, on n'a plus besoin de retenir les larmes, oui. Les émotions, les... Oui. On peut aller droit au but, parler de nos défunts, pleurer comme nous ce soir, et puis c'est comme un raccourci.
Et c'est vrai qu'on est surpris par ce qu'on écrit. Enfin, moi, je pense, quand j'ai commencé, je ne pensais pas du tout écrire ce que j'ai écrit à la fin, quoi. Puis c'est vrai qu'ici, on n'a pas peur de le laisser sortir, quoi.
Vous parliez de la retenue que vous pouvez avoir au quotidien, à l'extérieur. Pourquoi finalement est-ce qu'on se retient autant? Pourquoi est-ce que le deuil doit être sobre, pudique, discret?
Moi, je me suis peut-être un peu durcie, je ne sais pas, avec les enfants, mais j'ai pas envie de pleurer avec eux. Hein. J'ai pas envie qu'ils s'apitoient sur le pauvre papa. Et, bah, du coup, ça fait du bien d'avoir des endroits quand même, on en a besoin. Voilà.
Les gens sont démunis face à tout ça. Donc nous, il faut donner le change. Moi, si j'avais croisé quelqu'un juste avant de venir qui me disait, Gladys, comment vas-tu? Je lui dirais, mais super, très bien. Je ne peux pas répondre à la personne. Je me sens tellement envahie de souffrance. On ne peut pas mettre l'autre mal à l'aise comme ça. Et heureusement qu'il y a des lieux où on peut dire, je suis envahie de tristesse.
En réalité, nous sommes dans un monde où on ne parle que de mort. Si on écoute les informations, si on allume la télé, on ne parle que de ça. On lit des thrillers. C'est un sujet qui vraiment nous anime en réalité, tous. Sauf que ce qui fait extrêmement peur, c'est l'émotion derrière. C'est le vide abyssal. C'est la souffrance qui nous confronte à notre propre folie. C'est ça qui fait peur, qui rend les choses taboues. Il faut beaucoup de délicatesse finalement pour aborder ce sujet. Et c'est trop compliqué, donc on passe à côté en fait. On est dans l'évitement.
Au revoir, merci.
Marie Tournigan, déléguée générale de l'association Empreinte.
Vous accompagnez ici aussi bien les enfants, les adolescents que les adultes. Le deuil adulte a-t-il ses spécificités ?
Est-ce que le deuil adulte a des spécificités ? C'est une très bonne question. On nous pose d'habitude la question inverse. Quelles sont les spécificités chez l'enfant et l'ado ? Au deuil adulte, par exemple, si vous perdez un parent quand vous êtes adulte, il y a le fait que c'est vous la génération qui devient la plus âgée et que quelque part, même adulte, la plupart du temps, l'affection, la reconnaissance indéfectible des parents est irremplaçable. Donc on se sent orphelin même quand on est adulte et qu'on perd un parent. Mais voilà, le deuil adulte, c'est pas forcément le deuil d'un parent. Le deuil à l'âge adulte, ça peut être celui d'un frère, d'une sœur, d'un enfant. Et chaque deuil est singulier. Sur le deuil adulte, effectivement, c'est un deuil qui peut avoir tendance à être non reconnu, parce que les adultes prennent beaucoup sur eux aussi pour ne pas montrer leurs émotions. Et ils pensent que ça peut être aidant de ne pas montrer ses émotions. Donc, il y a probablement effectivement une banalisation du deuil chez l'adulte en disant bah, c'est dans l'ordre des choses, alors que ça peut mettre en danger la vie des gens, tout simplement. C'est-à-dire que nous, on constate et c'est prouvé scientifiquement que le deuil présente des risques, notamment de suicide, très élevés. Et que chez les plus de 65 ans, la surmortalité quand on perd un conjoint est très élevée aussi. C'est plus de 60% dans les 6 mois qui suivent un décès. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu frustrant de se dire qu'on ne met pas en place des dispositifs pour éviter ça.
Très concrètement, la dernière fois que vous avez pensé à la mort ?
C'était hier soir. Moi, j'y pense souvent le soir. En fait, je suis croyant. Et notamment quand je prie, bah, je pense à ça. Alors, moi, j'y pense souvent, mais pas ma mort. Plus celle des gens que j'aime.
Alors, il y a cette question un peu banale, de se dire, ouais, il y a quoi après la mort ? Et aussi le truc de se dire, c'est un peu bizarre comme concept quand même la mort, c'est que tout le monde y passe, mais on sait pas trop quand ça va arriver, ni comment, et voilà.
Votre mort idéale ?
Une mort idéale ? Bah, une mort en héros. Je sais pas, on peut s'imaginer des scénarios de fou en vrai. Hein. Ah si, je sais que je faisais un rêve quand j'étais petit. En mode, il y avait une attaque terroriste dans mon école et je sauvais tous les enfants. Et à la fin, je mourais, mais du coup, je mourais un peu en héros. Il y avait une petite plaque et tout pour moi.
Alors, je m'appelle Ismaël, j'ai 19 ans.
Moi, je m'appelle Ethan et j'ai 18 ans.
Moi, je m'appelle Maxence, j'ai 22 ans.
Non, parce qu'il n'y a plus rien, c'est zéro, c'est le néant. Et bon, j'ai toujours eu horreur de ça, donc... Je regarde pas la mort, je regarde pas les tombes, je m'occupe même pas de mes funérailles, je m'en moque. Par contre, je regarde tout ce qui est vivant. Ah là oui.
La dernière fois que vous avez pensé à la mort ?
Là, la semaine dernière. Au moment où. C'est bizarre ça, parce qu'au moment où elle est naître, ma deuxième petite fille. Alors, on connaît là, parce que c'est un prénom Jean-Marc.
Et vous avez quel âge à peu près ?
J'ai eu au mois de juin la 78.
Et je vous ai croisé, vous étiez assis seul sur un banc au but de Chaumont au soleil ?
Alors non, alors là j'étais en train de faire des exercices de yoga respiratoire. Ça me fait du bien, ça me décontracte, ça me calme, voilà.
Dans ces paroles de vie recueillies par Olivia Muller, il y a donc ceux qui ne veulent pas voir la mort et ceux pour qui c'est une obsession. En 2018, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu l'existence du trouble de deuil prolongé, entré dans la classification internationale des maladies. Selon un rapport publié il y a 3 ans, 60% des endeuillés subissent une altération de leur santé. Une personne sur 10 perd son emploi après la mort d'un être cher. Olivia Muller part maintenant en Normandie à la rencontre de Mathilde, jeune mère de famille qui vient de se réinstaller chez ses parents dans un village de l'Orne. En janvier dernier, elle a perdu brutalement son mari, Victorien, alors que leur bébé avait 4 mois.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
La région Normandie et SNCF Voyageurs vous souhaitent une bonne fin de journée. Next station, Verneuil-sur-Avre. Next station, Verneuil-sur-Avre.
Bonjour. Ça va?
Ça va et vous?
Oui, très bien. Merci de venir me chercher.
Est-ce que vous voulez mettre votre sac dans le coffre peut-être?
Ouais, je veux bien.
Oui, mon cœur.
Bonjour.
Petit chaton.
Donc derrière, il y a Octave. Et on va donc chez vous, chez vos parents,
ouais.
Qui habitent pas très loin d'ici.
Ouais, qui habitent à une dizaine de minutes. Ça va, mon amour? T'as encore enlevé ta chaussette.
Bonjour, mmh, chouchou. Je ferme?
Oui. Je m'appelle Mathilde Langlois-Ginaire, j'ai 33 ans depuis quelques jours. J'ai un enfant, mon fils Octave, qui va avoir bientôt 1 an, dans 2 semaines. Alors, avec Victorien, on s'est rencontrés au lycée, et après on s'est plus jamais quittés. Victorien, c'était ma drogue. On savait pas quoi faire de notre peau quand l'autre n'était pas là. Quand on s'endormait le soir, je m'endormais très souvent dans ses bras. Et je parlais à son cœur, lui demandant de battre le plus longtemps possible. Un soir totalement banal, on était couchés depuis tout juste 1 heure, lorsque j'entends Victorien faire des bruits bizarres. Je me réveille, je vois qu'il est inerte dans le lit. Je tente de le réveiller et de le secouer, mais il ne me répond pas, il est totalement inconscient. J'appelle au secours, j'appelle les secours et je tente de le réanimer toute seule. Je procède à un massage cardiaque que j'avais appris à faire 2 semaines avant. Mes voisins sont arrivés aussi et donc ils ont aussi appelé les secours de leur côté. Ça a duré, je pense, 1 heure et malheureusement, ils n'ont pas réussi. Le médecin sur place, il revient me voir et il m'annonce que malheureusement... Ils ont tout essayé, mais que Victorien est décédé. Tout s'effondre, c'est une implosion, c'est ça un peu.
Et puis l'autopsie est réalisée?
L'autopsie est réalisée très vite, et on me donne donc le résultat qu'il a fait un arrêt cardiaque, une crise cardiaque. Donc c'est très, très compliqué d'entendre ça quand on a 32 ans, qu'on est en pleine forme, qu'il n'y a jamais eu d'alerte de quoi que ce soit. Victorien, il est sportif, il fait du rugby, il fait de la course à pied.
Il préparait le marathon à l'époque?
Oui, il préparait le marathon. Donc c'est vraiment la foudre qui nous tombe dessus. Vraiment ça, on ne comprend pas. Les premiers jours, de toute façon, on est mes parents, mes beaux-parents, ma sœur et mon beau-frère, moi et Octave. Je vacille, je sais plus comment tenir, je ne veux plus me nourrir, je ne veux plus rien faire. Donc voilà, on me prend la main, ma sœur beaucoup, elle me porte, elle m'emmène me doucher, elle me fait manger. Et non, la vie me paraît absolument inconcevable et impossible à vivre. J'avais pas de pensée suicidaire, c'est juste que j'attendais juste que la mort vienne me chercher comme elle est venue chercher Victorien. Et Octave, à l'époque, était tout petit, il avait 4 mois, donc je me suis dit, de toute façon, il ne se rappellera pas de son papa, il ne se rappellera pas de sa maman, ce sera pareil. Il aura une vie différente, mais il n'aura pas la douleur de nous avoir perdus, il grandira juste différemment. Mais évidemment, ça ne s'est pas fait. Et surtout, Octave m'a quand même ramené à la vie. Parce que je l'allaitais exclusivement. Et en fait, il a refusé de boire du lait maternisé. Donc j'ai eu ce premier sursaut de vie en me disant, d'accord, il va avoir vraiment besoin de moi pour survivre, ce petit loulou, parce que là, il ne veut pas boire autre chose que mon lait. Donc si je veux que lui survive, il faut que je m'accroche et en tout cas que je l'allaite, toujours. Donc en fait, je me suis concentrée sur l'allaitement, me nourrir pour pouvoir avoir du lait, pour pouvoir le nourrir, et voilà. C'est vraiment petit à petit, petit geste par petit geste, jour après jour, heure après heure, je me suis de nouveau sentie obligée de vivre pour lui. Les premières choses aussi qui m'ont ramenée un petit peu à la vie, en tout cas qui m'ont obligée à m'accrocher à la vie, c'était que je voulais absolument qu'il connaisse son papa. Donc je me dis, qui mieux que moi peut lui raconter qui est son papa, déjà. Et puis ensuite, bah forcément, au fur et à mesure qu'il grandit, au fur et à mesure des interactions que je peux avoir avec lui, bah, lui, ce petit soleil-là, cette étoile, tous les moments que j'ai avec lui, c'est du grand bonheur et c'est vraiment ça qui me tient en vie, c'est sûr et certain.
Plusieurs mois après le décès et la mort de Victorien, vous décidez de courir sur une petite partie, le marathon de Paris.
Donc l'idée n'est pas venue de moi, elle est venue de ses cousins, de courir le marathon en relais. Et en ce qui me concerne, j'ai fait les deux derniers kilomètres au nom de Victorien, parce qu'il avait vraiment ce souhait, et je ne sais pas pourquoi, de courir son marathon et à la fin de passer la ligne avec Octave.
On a couru le relais pour mon mari qui est décédé il y a 2 semaines. Il voulait passer l'allée avec notre bébé, alors je l'ai fait pour lui. Tous nos amis, nos familles nous ont soutenus, alors beaucoup d'amour et de générosité autour de nous.
Est-ce que vous l'avez senti avec vous tout le long du parcours?
Oui.
Et oui, je passe la ligne d'arrivée avec Octave, je m'effondre parce que je sais que j'arrive au bout de ce marathon et qu'il sera toujours pas là. Et que ma vie va être ce marathon aussi. Et donc en fait, quelque part, ce marathon est une très bonne métaphore de ma vie maintenant. J'aime pas courir, j'aime pas vivre sans Victorien, mais pourtant il faut que je continue avec Octave et pour Octave et pour Victorien. Et
ça fait combien de temps là ? 1h15.
Ok, bon, je vais le chercher.
Le babyphone est posé dans un coin du salon. Et Mathilde donc est allée chercher Octave, qui vient de se réveiller d'une sieste.
Hello mon amour, t'as fait un gros dodo?
Ah
ben oui.
Il est midi, c'est l'heure du déjeuner pour Octave. Là son déjeuner c'est quoi?
C'est des petites coquillettes avec du brocoli.
Une petite assiette crabe.
Ça t'inspire ou pas?
Avez-vous le sentiment, parfois, que les autres ne peuvent pas comprendre ce que vous ressentez?
Oui, j'ai tout le temps ce sentiment, que personne ne peut comprendre ce que je ressens. Je suis très bien entourée, mais je me sens très seule dans cette situation. Et maintenant que je suis passée de l'autre côté de la barrière, je me rends compte à quel point les gens sont maladroits. Ils le sont juste dans le fait, par exemple, de ne pas évoquer la situation, de faire comme si de rien n'était. Mais moi, la première, avant, quand je faisais face à quelqu'un qui était dans le deuil, ben, volontairement, j'ai éludé le sujet parce qu'on se dit qu'on va remuer le couteau dans la plaie et qu'on va faire du mal. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté, c'est que c'est de ne pas en parler qui fait du mal. Pour moi, c'est presque de l'irrespect, de faire semblant que tout va bien, de passer un déjeuner en famille et de ne pas évoquer Victorien ou de juste de continuer de parler du beau temps et de la pluie, bah en fait ça met en colère intérieurement, parce que quand on n'évoque pas nos disparus, on a l'impression qu'ils sont encore plus disparus et on a envie de secouer tout le monde et dire mais t'as pas compris en fait que la Terre elle a arrêté de tourner.
Avez-vous le sentiment qu'il y a une durée au-delà de laquelle la souffrance des personnes endeuillées devient tabou?
Oui. Oui. Enfin, alors, la durée, je ne la connais pas. En tout cas, il est certain qu'au début, on nous témoigne beaucoup de soutien, beaucoup de mots. Moi, pour le moment, le temps, c'est juste mon ennemi. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait l'effet d'apaiser ma souffrance. Pour le moment, il me fait juste grandir le manque. Aujourd'hui, j'ai un manque intersidéral à gérer. Et les gens pensent que voilà, ça fait 8 mois. Bon, ben, voilà, la vie continue. Ah non.
Col tempo sai, col tempo tutto se ne va. E non ricordi più il viso, e non ricordi la voce dentro un cuore che tace, serve a niente cercare. E ti lascio partire, è molto meglio così.
Sous les yeux, il y a le nez. Sous le nez, il y a la bouche. Qu'est-ce qu'on lit comme histoire? Ça. La nature en musique. C'est celle-là ta préférée. Tu appuies? Vas-y. C'est l'automne. Les couleurs rougeoient et la nature sent bon la terre.
C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs. Sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était.
Est-ce que vous pensez souvent à la mort ?
Fréquemment, tout le temps. J'ai perdu un être comme mon grand frère, c'est mon cousin. De manière assez tragique, on s'y attendait pas, qu'il était jeune aussi. Et je pense que ça a été un moment assez dur de ne pas lui avoir dit que je l'aimais. Franchement, je me sentais vraiment invincible. Jusqu'au jour où j'ai vu quelqu'un qui se sentait aussi invincible partir. Et je me suis rendu compte qu'on n'est que des hommes et qu'en fait, notre temps il est très limité sur Terre. Et que voilà, il faut faire le maximum de bonnes actions, de profiter de sa famille, de ses parents. Et vraiment profiter de la vie parce qu'elle est vraiment courte, on ne sait pas quand est-ce qu'elle peut se terminer. Voilà. Farah Mendy, 29. Mon métier, c'est... Je suis banquier actuellement.
Moi, j'y pense tous les soirs avant de dormir.
Vraiment tous les soirs?
Ouais, tous les soirs, de vrai. Je pose avant de dormir et je m'imagine, ou je repense à mes proches décédés, ou je me dis, Belek, si jamais je meurs demain, je ne sais pas comment ça va se passer. On essaie de voir justement, ça travaille la tête quand même. Oh, ouais. Même mes amis en soi, j'ai pas d'amis proches encore décédés, mais des fois je me dis justement que ça doit être une épreuve très très dure. Je sais pas, c'est comme si tu faisais une grande tour de cap là et que d'un coup elle se cassait d'un coup et que t'avais fait de l'effort et que maintenant tu dois continuer tout seul. Maxime, animateur, j'ai 24 ans.
Et je vous ai rencontré sur le canal Saint-Denis.
Voilà, c'est ça.
En Seine-Saint-Denis.
Aubervilliers 93-300, hein, vraiment, hein, très très fier de là où on vient, hein, de vrai.
De retour à Paris, je retrouve le docteur Christophe Forêt dans un café situé juste au pied de son cabinet dans le quartier des Halles. Christophe Forêt est psychiatre, auteur notamment de « Vivre le deuil au jour le jour » et il a choisi de se spécialiser, après avoir traversé l'épidémie de sida il y a 30 ans, dans le deuil et l'accompagnement de fin de vie. Vous parlez, et on parle souvent du processus de deuil. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement? Est-ce que c'est un schéma, une trajectoire presque préétablie?
Pour expliquer vraiment simplement le processus de deuil, imaginez, vous vous blessez, une profonde blessure au bras par exemple. Il y a donc automatiquement votre corps mobilise sans votre volonté, sans votre force de caractère, sans rien, il mobilise automatiquement une énorme intelligence qu'on appelle le processus de cicatrisation. Même si les gens qui nous écoutent à l'instant ont l'impression d'avoir qu'après la mort de leur enfant, de leur conjoint, leur vie est finie, ils ne pourront plus avancer. C'est fini, ça y est, c'est fini. Ça fait plus de 30 ans que j'accompagne les personnes en deuil et ça fait plus de 30 ans que les gens, après un certain temps d'accompagnement, me disent « Ben non, on peut continuer. On peut même avoir un autre enfant si on a perdu un bébé et qu'on a la possibilité d'avoir un autre, évidemment. On peut même aimer à nouveau si on a perdu un conjoint. Ou pas, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est un chemin qui, une fois que la plaie est cicatrisée, on la garde à tout jamais. On perd absolument jamais le lien avec la personne-là, mais on est étonné de se rendre compte que, mais oui, je peux vivre. J'y croyais pas pendant les premières années de mon deuil, soyons clairs, en termes d'années. Hein. Ça évolue comme ça, le deuil. Je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien. Mais c'est l'expression « faire son deuil » n'a pas de sens. Parce que faire son deuil, ça veut dire quelque chose qui démarre, qui a un milieu, qui a un début, qui a un milieu, qui a une fin. Or, il n'y a jamais de fin, parce qu'on est à tout jamais transformé par la perte de la personne. Et être malaxé toute sa vie, ça s'appelle le manque. Et c'est, vu très positivement, c'est la signature de l'amour qui se termine jamais.
Comment expliquez-vous, finalement, qu'on se remette de tout et du pire, que l'humain parvienne à se remettre du pire?
Parce que l'humain, il est incroyable. Non, parce que le vivant est équipé de quelque chose qui tend à l'apaisement. Quelque chose qui, à chaque fois, reprend, renaît, mais que je le veuille ou pas. Le soleil va se lever. Quand la nuit est là, le soleil va se lever. Je veux pas qu'il se lève, mais il va se lever quand même.
Au-delà du deuil, un reportage signé Olivia Muller. Réalisation Gaëtan Colli, assisté de Martine Messonnier. Mixage Valérie Lavalard. Pour réécouter cette émission, les précédentes et les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner au podcast d'Interception sur l'application Radio France.